Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons la censure, la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir, merci d'être là et merci surtout pour votre fidélité sans cesse renouvelée à La Nouvelle Génération. Nous sommes au mardi 25 juin 2024 et il sont 11h sur votre radio et vous comprenez sans doute que nous sommes dans le deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était Kossi Datevi assure la mise en onde, Géraud Akoutse est à la mise en ligne, je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez aussi le privilège de nous suivre sur cette plateforme digitale et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi aussi des invités, confrères journalistes en studio. Ali Le Grand, bonjour.
Bonjour cher confrère, cher Pascal. Bonjour. Sas Gaou, que je n'ai plus vu depuis un moment. Chers invités, soyez les bienvenus. Merci. Bonjour auditrices, auditeurs de la belle radio Canal FM.
Et j'espère que tu as bien commencé la semaine.
Très bien, la preuve du fait frais. Brûler la peau et même, je dirais, même réfléchir, on est étouffé par moment. Mmh. Donc actuellement, c'est vrai, ça continue toujours de goûter dehors.
D'accord.
Probablement. C'est par là que je suis passé. Moi, je me sens à l'aise, très à l'aise.
C'est l'essentiel. Vous vous sentez à l'aise. Vous avez vendu la mèche. C'est vrai que je voudrais garder même d'ailleurs le secret. Mais comme vous avez déjà vendu la mèche, Sas Gaou est là. Sas, bonjour.
Bonjour Pascal, ou plutôt Guten Tag.
Voilà, Guten Tag. et sûrement que nous... J'espère que vous allez bien, Sas.
Je rends grâce et je suis heureux de me retrouver dans ce studio avec une certaine émotion. Je devine que tu comprends.
Tout à fait.
Retrouver Ali Le Grand, notre invité ici, sans oublier les confrères qui vont nous rejoindre incessamment, mais aussi et surtout... les milliers, les centaines de milliers d'auditeurs du club La Presse au Togo, en Afrique, dans le monde entier. Je pense à vous tous, je vous salue. encore une fois avec une certaine émotion.
Décidément, c'est une voix qui nous a toujours manqué depuis un temps. Et quand on écoute encore la voix, c'est avec justement cette émotion que nous écoutons alors cette voix. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
T'en puisque prie, Pascal.
Il y a un autre ami, un autre invité, bien sûr, alors pour cette émission de ce mardi. C'est monsieur Kwakwadina Essenda. Monsieur Kwakwadina, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Bien.
Oui, je vais très bien ce matin.
D'accord. Avec vous, nous allons parler d'un concours que vous organisez. Et je rappelle tout simplement que vous êtes le responsable projet programme à la Fondation Mablé Agboudan. Et vous organisez un concours de lecture à l'intention des jeunes élèves, bien sûr. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il ce concours de lecture?
Oui, merci Pascal pour la question. Nous organisons un concours de lecture dénommé Les Étoiles de la Lecture au Togo. Nous sommes à la première édition de ce concours. Nous l'organisons dans cette période de vacances. Le but ici, c'est de pouvoir permettre à nos jeunes frères de pouvoir occuper sainement leur période de vacances en s'instruisant et en découvrant aussi des gens littéraires qui existent. Parce que nous savons bien que de nos jours, avec le développement du numérique, il y a les écrans Android, les réseaux sociaux qui prennent le dessus. Nous aimerons que les enfants ou les jeunes s'intéressent un peu plus encore à la lecture pour une richesse culturelle plus accrue.
Il est souvent dit ces derniers temps que les jeunes lisent de moins en moins. Et finalement, c'est quoi le constat? Est-ce que vous êtes basé peut-être alors sur ce constat pour initier ce projet?
Oui, le constat que nous avons eu avant d'initier ce projet, que nous faisons d'ailleurs avec le concours de la coordination nationale de la francophonie, c'est qu'actuellement dans les claques, nous avons de moins en moins de lecteurs dans les claques. C'est vrai, les enfants viennent, mais ils sont beaucoup plus intéressés par les activités ludiques, parce que les claques aussi offrent ces activités ludiques dans leur centre. Mais au niveau de la lecture, il y a une baisse. Maintenant, nous voulons leur donner de l'engouement, bien cette envie de se ramener un peu plus vers la lecture pour découvrir la richesse qui sont cachées dans les livres actuellement.
Allons-y maintenant dans le contenu alors de ce concours. Concrètement, comment ça va se dérouler?
Concrètement, étant donné que nous sommes en partenariat avec la Commission nationale de la francophonie, qui gère les claques sur le territoire. Nous sommes en partenariat avec eux. Donc, le concours, pour l'inscription d'abord sur le concours, nous avons 4 moyens pour s'inscrire. On peut tout de suite, il y a un lien internet par lequel on peut directement s'inscrire. La deuxième façon, c'est que l'on peut aller directement dans le claque le plus proche pour faire son inscription. On peut également s'inscrire par WhatsApp et aussi par SMS ou bien par appel. Nous avons donné en fait cette largesse-là pour permettre à tout le monde de pouvoir s'inscrire où qu'il soit. Surtout dans les localités où il existe des claques.
Donc, ce qui veut dire que ça va se passer dans les claques sur toute l'étendue du territoire national, c'est ça?
Oui, nous avons 20 claques actives sur l'étendue du territoire national. Au niveau de Lomé, il n'y a pas de claques. Là, nous avons plutôt conclu un partenariat avec la Commission nationale de la francophonie elle-même qui dispose des livres pour que les ressortissants aussi de Lomé puissent facilement participer à ce concours-là.
Alors, concrètement, qu'est-ce que les lauréats de ce concours vont gagner?
Oui, pour les prix qui sont préparés pour les lauréats de ce concours, c'est notamment un kit scolaire parce que nous sommes aussi dans la promotion de l'éducation. Nous préparons un kit scolaire pour ces enfants qui comprendra un peu de tout. Actuellement, nous sommes en discussion avec différents partenaires pour pouvoir augmenter la cagnotte aussi de ces prix. Sinon, nous avons déjà préconçu une idée du kit scolaire pour ces jeunes-là, ces jeunes lauréats. Maintenant, nous cherchons à pouvoir amplifier si les partenaires sont quand même disposés à nous aider. Nous pourrons aussi le faire.
Et ces jeunes élèves qui nous écoutent actuellement, quel sera leur intérêt en participant même d'ailleurs à ce concours?
D'accord, leur intérêt à participer à ce concours actuellement, étant donné qu'il y a eu une baisse significative de l'envie de lire, d'abord, mis à part le prix qu'ils vont gagner, ces élèves-là, ça serait pour eux un moyen de pouvoir s'enrichir culturellement d'abord, et ensuite un moyen aussi pour eux de pouvoir développer des techniques sur les résumés des livres. Puisque dans ce concours, lorsque vous vous inscrivez et que le concours démarre, chaque participant a l'opportunité de ramener un livre chez lui, qu'il lit dans son temps, et après il revient au CLAC déposer le livre et faire le résumé du livre qu'il vient de lire.
Donc ce qui veut dire que le concours ne se fera pas sur place, c'est-à-dire la lecture ne se fera pas sur place.
C'est en deux étapes. La première étape, pour la première étape, chaque participant vient prendre un livre, il va à la maison, il le lit, il revient au CLAC maintenant où on lui donne un papier où il fera le résumé dessus. Cette mesure a été prise pour éviter que les élèves se fassent faire les résumés par quelqu'un d'autre et venir juste ramasser pour avoir un excellent résumé. Donc, il vient le faire directement sur place et prend un atelier pour partir. Lorsqu'il finit, il revient. Maintenant, les CLAC nous renvoient tous les résumés qui ont été déposés pour que les corrections commencent. Maintenant, à la fin de la première étape, nous allons sélectionner les 5 meilleurs résumés.
Les 5 meilleurs résumés seront sélectionnés.
Voilà, dans chaque CLAC, les 5 meilleurs résumés. Maintenant, nous passons à l'étape 2. Mais à l'étape 2 du concours va consister à ce que ces meilleurs résumés, ces personnes qui ont eu le meilleur résumé, maintenant viennent pour le test oral. Maintenant, c'est là maintenant, chacun choisit un extrait du passage de livre qu'il a déjà lu de son choix et qui vient maintenant présenter à un jury qui serait là pour qualifier sa lecture. C'est-à-dire, il y a aussi des critères de sélection, notamment la diction, l'articulation, la rapidité, le temps de la voix et consorts. Il y aura des critères de sélection qui sont déjà définis pour permettre de savoir maintenant qui lit le mieux. Donc, avant de passer à la première étape, on passe d'abord à l'étape de résumé où on voit ceux qui font de meilleurs résumés et également le meilleur, celui qui aura le plus lu de livres sera aussi également primé.
Donc, et comment vous le saurez?
Comme je le disais, lorsque tu ramènes un livre au CLAC, tu fais le résumé de ton livre et tu prends un nouveau livre.
Tout à fait.
Donc, c'est par ça que nous saurons qui a le plus lu de livres. Parce qu'on se dit, on n'a pas voulu limiter le nombre de livres que chaque participant doit lire. Parce qu'on se dit, bon, il y a des personnes qui peuvent lire un livre peut-être en une semaine ou bien en une semaine, il peut lire aussi deux. Ça dépend aussi de ses occupations parce que la personne ne fera pas que lire le livre du matin au soir. Donc, en fonction de ses occupations, la vitesse de lecture va différer de chacun. Maintenant, au niveau du CLAC, on enregistre telle personne est venue, a pris tel livre, il a repris tel livre, il a repris tel livre. Donc, à la fin de cette première étape, il serait facile pour les responsables du CLAC de savoir qui a pris le plus de livres. Étant donné que lorsque tu prends un livre, tu fais un résumé.
D'accord. Alors, maintenant, c'est vrai que l'essentiel, c'est de montrer aux jeunes, surtout, ce goût de la lecture, puisque la lecture fait toujours du bien à l'âme et ça fait toujours du bien à notre cerveau. Alors, finalement, si vous avez un mot à adresser à ces jeunes qui vous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Actuellement, à ces jeunes qui nous écoutent présentement, c'est de les encourager à participer massivement à ce concours que nous sommes en train de lancer parce qu'il y va beaucoup plus de leur intérêt d'enrichir leur culture générale à travers la lecture. Puisqu'on le dit, la lecture fait vraiment voyager, ça fait découvrir aussi beaucoup de choses dans le monde et aujourd'hui nous sommes en train de perdre à petit feu cette culture de la lecture. Donc je les encourage vraiment à aller vers la lecture.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Kwakwadina et Sinda pour ces explications sur le concours de lecture que vous organisez. Et je rappelle tout simplement que vous êtes responsable projet programme à la Fondation Mablé Agbodan. Merci d'être passé dans cette émission.
Donc c'est moi qui vous remercie.
D'accord, je retourne vers Sas Gaoussas. Cette fois-ci, je peux te dire Guten Tag.
Guten Tag, encore une fois, voilà. Pascal.
Oui. Voilà, je pense que la salutation en vaut vraiment la peine. Et surtout que nous vous saluons en allemand parce que vous nous revenez directement à l'Ordre de Bonn, de l'Allemagne bien sûr, et vous avez participé les 17 et 18 juin dernier à Bonn, bien sûr, au Global Media Forum de la Deutsche Welle. Et ce forum vous a permis même d'ailleurs d'avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, bien sûr, alors à travers un certain nombre de choses, bien sûr. Alors, quand on parle alors sport de GMF. Qu'est-ce que c'est concrètement, SAS?
Merci encore une fois, Pascal, mais tu permettras qu'avant d'aborder le sujet du Global Media Forum, je puisse exprimer deux pensées. À l'endroit d'abord de Julian Assange, mondialement connu avec son site d'information LeakLeaks, qui après 13-14 ans de calvaire, a été libéré d'une prison en Grande-Bretagne et envoie pour une île américaine où, semble-t-il, on va envisager une liberté in fine. Le deuxième confrère à qui je pense, c'est le Burkinabé Serge Houlon, journaliste qui a été enlevé manu militari par des individus à son domicile. Et on ne sait pas encore où il est et ce qu'on lui reproche. Alors, le cas Julian Assange et Serge Houlon pose le problème encore du défi du travail du journaliste, du communicateur. Travail passionnant que nous faisons, que nous aimons beaucoup, mais une profession qui n'est pas exempte de défis, voire de difficultés. D'où encore le besoin de plus de professionnalisme, échanger les solutions, partager également les défis et travailler en réseau. Et cela nous ramène donc au Global Media Forum. Cette plateforme interdisciplinaire que la Deutsche Welle, c'est la radio ou bien les médias publics allemands, l'équivalent de France Média Monde quand on est en France, ou bien BBC quand on est en Grande-Bretagne, ou encore Voice of America aux États-Unis. Donc la Deutsche Welle, depuis 2008, organise annuellement ce Global Media Forum. Cette année 2024, nous étions plus de 1500 participants venus de plus d'une centaine de pays. Des pays aussi divers que l'Allemagne, bien sûr, mais l'Afghanistan, l'Iran, Sri Lanka, Fidji. C'est la première fois que j'ai vu des Fidjiennes et des Fidjiens vis-à-vis. Des Indiens, bien sûr, États-Unis d'Amérique, Brésil, Argentine. Naturellement, en Afrique, le Togo, nous y étions. Le Mali, le Sénégal, le Kenya et bien d'autres. Donc 1500 participants venus de plus d'une centaine de pays et qui ont débattu de toutes les thématiques autour du thème central qui est Share Solutions, partager les solutions. Donc c'est ce que nous avons fait les 17 et 18 juin dernier au Centre international de conférences à Bonn. Bonn qui est l'ancienne capitale de la RFA, mais Bonn qui est demeurée une ville très attrayante, très belle, ville très verte, où c'est vraiment bequem, pour dire agréable à vivre. Donc à l'ouverture, il y a le directeur général de la Deutsche Welle, le confrère Peter Limbo, qui était là. Il y avait également le ministre-président, il y a ministre-président, l'équivalent un peu du premier ministre de l'État fédéral de la Rhénanie-Nord-Westphalie, qui a participé également à l'ouverture, et surtout la présence effective de la ministre fédérale des Affaires étrangères, la dame Annalena Baerbock, qui a fait un sujet introductif et qui a animé également un panel. Et les 17 et 18, c'était un ensemble de panels qui ont porté sur les thèmes divers, aussi divers que la problématique de couverture des élections dans des zones à conflit.
Oui.
Également, les défis de l'intelligence artificielle. Une semaine avant notre départ, il s'était tenu la semaine africaine de l'intelligence artificielle à Lomé
ici. Bien
et
sûr.
C'est un sujet qui a été au centre des débats au cours du forum en Allemagne. Et on peut se demander déjà, Pascal, est-ce que tu as une idée de ce que Canal FM peut devenir dans 5 ans, dans 10 ans?
Écoutez, je sais quand même que Canal FM ne sera pas la même quand même.
Ah, c'est hier quand j'étais avec le directeur général Modeste, mais sans vous souhaiter, on a échangé un peu sur les défis. Parce qu'il y a risque que nos médias tombent dans ce qu'on appelle le sommeil technologique.
Tout à fait.
Et l'intelligence artificielle, avec toutes ses applications, nous offre des opportunités. Et au-delà de ça, donc, des zones de conflit comme le problème entre Israël et Hamas, pour ne pas dire la Palestine, les problèmes des droits de l'homme et de la femme en Iran, en Afghanistan, la guerre Iran-Irak, la guerre civile au Soudan et bien d'autres problématiques ont meublé des panels entretenus par des communicateurs, des journalistes, des managers, des politiques, des universités, des techniciens de très haut niveau. J'en suis sorti personnellement très enrichi et comme je l'ai signifié dans le premier rapport que j'ai envoyé à l'ambassade d'Allemagne, je suis parti à ce forum-là comme journaliste togolais,
oui.
Mais j'en suis revenu comme journaliste du monde, avec ma tête ouverte à toutes les questions, mais également les défis. Comment s'organiser seul ou avec son organe, mais aussi et surtout en réseau. La force, encore une fois, de travailler en réseau...
C'est un grand défi aujourd'hui.
Un grand défi. Hein? Nous, journalistes togolais, nous devons comprendre que nous devons travailler en réseau, au plan national, au plan ouest-africain, africain, et pourquoi pas mondial. Parce que le Global Media Forum offre l'occasion, justement, de rencontrer des partenaires du monde entier. Et je le recommande vivement à des managers, à des directeurs d'organes, à nos responsables d'associations professionnelles, mais aussi et surtout à nous, les journalistes et techniciens également. Il faut sortir, aller rencontrer d'autres personnes, discuter avec eux, échanger avec eux, et sûrement, on en sort beaucoup plus enrichi.
On en sort beaucoup plus enrichi. Sasgaou, merci beaucoup hein, pour cette restitution que vous venez alors de faire hein, sur le Global Media Forum. Je sais que Sam Diobo aura certainement quelque chose à dire. Sam, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour à l'invité, bonjour aux fidèles auditeurs et auditrices de Canal FM.
Tout à fait.
Alors, Global Media Forum, je connais très bien l'événement parce que moi j'ai commencé par participer à ce forum depuis 2015, de 2015 jusqu'en 2022, j'étais toujours présent et ce que ça se dit, il n'a fait que retracer ce qui se passe là-bas et c'est un lieu de rencontre de haut niveau où on rencontre des journalistes du monde. Moi la première fois que j'ai rencontré le PDG de Hit Radio, c'était à un forum en Allemagne que je l'ai rencontré, on a échangé sur beaucoup de thématiques. Et quand vous participez à ce genre de rencontres, ça vous donne une grande ouverture d'esprit. En tant que journaliste, vous savez que les journalistes, ils n'ont pas d'argent, mais ce qu'ils ont de plus cher, c'est les relations, c'est le carnet d'adresses. Et quand vous participez à un forum où 1500 professionnels de médias sont regroupés sur place, ça veut dire que si vous êtes curieux, vous allez sur les 1500, vous aurez au moins 800 personnes que vous aurez comme amis ou comme partenaires avec qui vous pouvez faire des choses. Et donc moi, je pense que c'est une bonne chose que les journalistes togolais s'essayent parce que ce n'est pas trop compliqué. Il faut d'abord demander à être participant parce que je pense que le forum qui se tient en juin, déjà en fin décembre, par là, les inscriptions s'ouvrent et les journalistes togolais peuvent aussi essayer. C'est une bonne chose que d'aller... Bon, peut-être Sass, il a eu la possibilité d'être invité parce qu'il y a deux participants. Il y a ceux qui sont invités par la Deutsche Welle et ceux qui viennent avec leurs propres frais.
Tout à fait.
Mais le journaliste togolais tire souvent le par la queue. C'est souvent un peu compliqué pour les gens de s'acheter un billet d'avion. En période d'été, en période de vacances, les billets sont autour du million. Et c'est ça qui tarde un peu l'arrivée de beaucoup de gens.
D'accord, ça, si vous voulez acheter
non,
quelque chose.
Non, ce que ça m'a dit, c'est pertinent. Moi, je reviens de ce forum et ce privilège, je le dois hein, à l'ambassade d'Allemagne au Togo qui m'a recommandé. Et je suis allé à ce forum en tant qu'invité spécial voilà. Du ministère fédéral des Affaires étrangères. Mais s'il te plaît, Pascal.
C'est un honneur.
C'est pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui.
C'est un honneur. Ça.
Donc, tout frais pris en charge par l'Allemagne, aussi bien les billets d'avion, l'hébergement, que même les tickets de train, de métro, tout ça là, tout a été pris en charge par le gouvernement.
Ce qu'il faut d'intéressant, c'est que le badge des participants sert aussi de ticket de transport dans la région.
Okay.
Donc, si vous êtes à Beaune, vous pouvez aller à Cologne, vous pouvez aller à Düsseldorf.
Dans la région.
Dans la région avec le même badge qui vous sert de titre de transport.
D'accord.
Et vous pouvez imaginer qu'avec ce badge-là, vous savez, maintenant, l'euro se joue en Allemagne.
Ouais. C'est vrai.
Et ça, vous ne pouvez pas se trouver en Allemagne. Et avec un badge au cou et ne pas aller voir un match en direct dans leur stade.
Voilà, vous avez profité de l'occasion.
Alors, ce que je veux dire également, c'est que nous, les bourriers, les invités, nous avons eu droit à un programme spécial. Nous sommes arrivés en Allemagne, à Bonn, le samedi 15, mais le dimanche, toute la journée, nous avons eu droit à des ateliers thématiques au sein de la Deutsche Welle, notamment des formations comme sur l'intelligence artificielle, toutes les opportunités, et comment également recouper suffisamment les informations et bien d'autres ateliers. C'est ce que nous avons fait le dimanche, nous les invités du gouvernement allemand, avant que le forum même ne démarre le lundi et finisse le mardi. Et le mardi, le soir, il y avait eu une tournée sur le Rhin.
Ouais.
Hein, c'est le grand fleuve allemand.
Allemand.
Un bateau où nous étions tous là à manger, à boire, à danser et à fraterniser davantage avant le départ. Mais ce que je tiens à dire, c'est que le forum s'anime en anglais.
Et c'est un défi.
En anglais, c'est un défi. Je vous en prie, nous tous, remettons-nous à l'école de l'anglais et surtout nos enfants. Inscrivons nos enfants à l'anglais parce que l'anglais, c'est la porte, c'est la clé qui ouvre toutes les portes.
Mmh.
Vous imaginez que le forum se tient en Allemagne, même le directeur général de la Deutsche Welle, qui est allemand, il n'a parlé qu'en anglais. Même la ministre Annalena Baerbock n'a parlé qu'en anglais. Tous les panels, tous les forums ont été animés en anglais. Mmh. Moi, j'ai fait l'effort de comprendre autour de 80%, mais j'ai eu toutes les difficultés de participer au débat, parce que mon anglais ne me permettait pas, d'animer. Si c'était en allemand, j'aurais été beaucoup plus à l'aise.
Plus à l'aise.
Eh bien, exhortation, l'anglais, nous avons beau être dans un pays francophone, mais mettons-nous à l'école de l'anglais, parce que c'est une clé qui ouvre beaucoup de portes.
Nous allons quand même rappeler que nous faisons partie aussi de Commonwealth, et là, ça nous donne même d'ailleurs aussi de l'émulation, à apprendre l'anglais comme cela se doit.
Oui, c'est le point où tu chutes là. Oui. Moi, je crois que c'est le point le plus important. C'est-à-dire que c'est d'abord un travail personnel. Au-delà de l'engagement du gouvernement togolais, que chacun de nous, comme ça cela dit, puisse vraiment s'y engager. Pour les enfants, il faut les inciter à apprendre l'anglais. Parce que comme il le dit, au-delà de ces voyages, même quand vous avez l'opportunité ou bien vous avez envie de faire une formation aujourd'hui qui est cotée par le gouvernement allemand ou la Chine, attendez-vous forcément à l'anglais. Oui, c'est forcément l'anglais d'abord. Et ensuite, s'il y a l'allemand, il y a le chinois. Maintenant, si vous êtes limité, vous n'avez que le français, ça veut dire que vous ne pouvez même pas postuler. Et encore que c'est un truc de bourse, vous n'allez jamais en gagner. Et donc, c'est pour dire que d'abord, il faut voir là où on veut aller. Si on ne veut pas évoluer, en tout cas, si on ne veut pas quitter notre traditionnelle langue, on risque aussi de... Enfin, d'être mis de côté, en fait. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, comme on le dit aujourd'hui. Si vous ne vous y adaptez pas, vous allez rester là, vous n'allez pas pouvoir, en tout cas, embrasser le
niveau. Merci beaucoup. Eric Pakoudjo, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers collègues. Alors, ça, tu vas bien, j'espère.
Je vais bien, Yoran.
Alors, la semaine dernière, évidemment, je vais demander d'après toi, puisque je ne t'ai plus vu il y a 2 semaines. Et c'est là, on m'a dit que tu étais en Allemagne pour... une grande conférence. Merci de nous revenir avec toutes ces informations qui forcément nous permettent de voir à peu près nos lacunes et de nous y préparer. Parce que c'est toi aujourd'hui, demain ça peut être Sam, ça peut être Ali et, etc. Donc je crois que c'est important que tu nous reviennes avec ce résumé de tout ce qui s'est passé. C'est sûr que si on te laissait pendant toute l'heure de l'émission, tu vas pas...
Je sais qu'il va comment dire tout.
Surtout que c'est un homme de micro.
Il adore ça.
Okay. Merci alors Eric, c'est vrai que je voudrais qu'on revienne sur un sujet évoqué, surtout dans les enseignements qui ont été justement, que ça a pris même d'ailleurs au cours de ce forum, c'est que il parlait tout de suite alors de réseautage, c'est-à-dire le fait que nous, les journalistes, nous devons... nous réunir aujourd'hui en réseau pour mieux fonctionner et aller même d'ailleurs à l'extérieur pour en quelque sorte arriver à avoir des formations de ce genre. Je pense quand même que c'est très important.
Je vais vous donner juste un petit exemple. Vous savez, parfois, vous êtes dans un pays et vous voulez faire une enquête sur un sujet. Vous savez, le plus souvent, ce qui se passe quand vous êtes en réseau, vous prenez quelqu'un de votre réseau qui fait le travail à votre place et vous le citez dans votre rendu. Et ça permet tout à fait de vous désengager du travail qui a été fait. Vous comprenez que Le plus souvent, on parle d'une enquête internationale et on dit que ça, le travail a été effectué par un réseau. Et on parle souvent des journalistes engagés, des journalistes investigateurs et tout ça.
Des lanceurs d'alerte.
Des lanceurs d'alerte et tout ça. Alors que le travail est bien effectué par un journaliste de la place. Donc c'est très important de travailler avec des journalistes de l'extérieur. Et donc de créer un réseau. Ma foi, vous savez... Nous avons un gros problème ici. Quelqu'un, Sam l'avait dit tout à l'heure, que les journalistes togolais tirent le diable par la queue. Et justement parce que nous n'arrivons pas à approcher les gens. Parce que après tout, il faut se déplacer aussi. Mais nous n'avons pas de moyens pour nous déplacer. Et j'avoue qu'il y a de cela une quinzaine d'années, je faisais partie... Personnellement, vous savez, je n'avais pas l'habitude de parler de moi. Je faisais partie d'un grand réseau de journalistes. Malheureusement, chaque pays organisait quand même une rencontre. Mais moi, je ne peux pas le faire chez nous parce que je manque de moyens. Et quand vous allez taper à des portes, on vous dit on n'a pas de budget pour ça, etc. Et donc, ça nous limite, nous autres. Mais nous devrons faire avec les moyens de bord. Je ne dis pas que c'est une fatalité. Néanmoins, je pense que nous devons tout faire pour constituer ce genre de réseau qui nous permette d'apprendre toujours et de bien produire. Parce qu'en réalité, la finalité de tout ceci, c'est de faire un journalisme professionnel.
D'accord, merci beaucoup. Je pense que voilà.
Pense qu'un journaliste ne peut pas fonctionner en vase clos. Un journaliste a forcément besoin de réseau. Déjà en interne ici, il faut appartenir à des associations. Ça, c'est dans son développement, parler des organisations. Il a lancé un appel aux organisations. Donc quand vous êtes journaliste et vous voulez fonctionner seul, vous n'allez pas parvenir à vos fins. Il faut déjà en interne appartenir à des associations. Maintenant, au plan sous-régional, il y a des organisations. Il faut adhérer à des organisations. Moi, je suis membre de l'Organisation internationale des journalistes francophones. L'UPF. Donc, dans cette organisation-là, vous ne savez pas ce qu'il y a de formidable à faire. Tout de suite, si je dois mener une enquête à Cotonou, par exemple, je peux m'appuyer sur des amis journalistes qui sont membres de l'UPF. Pareil pour les autres pays membres de la francophonie. Donc, maintenant, au plan international, comme ça a eu la chance de frotter avec des journalistes, moi, par exemple, je suis ici, mais je suis en contact avec des journalistes de la Deutsche Welle. Il y a un Togolais que je salue au passage, Kossivitiasou, qui est là-bas. Il y a un Tchadien qu'on appelle Eric Topona, qui sont en contact avec nous.
On a beaucoup discuté aussi.
Parfois, quand ils veulent des informations sur le Togo, ils s'appuient sur nous. Donc, le réseautage est aussi important, et pour nous, et pour d'autres journalistes. Donc, un journaliste a forcément besoin d'un réseau.
D'accord, merci beaucoup. Nous allons en arrêter là pour ce débat. Merci beaucoup à Sas pour cette belle restitution.
Je t'en prie, Pascal, venez là de te remercie encore une fois. Et une fois n'est pas de trop, dis merci au gouvernement allemand par l'ambassade d'Allemagne. Parce que nous étions deux. Il y a moi et puis la consoeur Eugénie Garedisso. C'est nous qui avions été pris en charge par l'Allemagne. Mais il y a d'autres confrères comme Credo Adjetete et Paul Louis Magloire. Également, qu'on a retrouvé là-bas, 4 ambassadeurs du Togo à ce forum. Nous étions une petite goutte dans l'océan de ce forum, mais comptez sur nous. Nous y sommes allés avec toute la verve pour dire que le Togo a beau être un petit pays, mais nous savons nous montrer présents. Merci Pascal et bonne suite d'émission.
Merci beaucoup, ça c'est bonne journée à toi aussi. Alors, chers confrères, nous quittons ce sujet, nous parlons d'un autre sujet et nous disons merci à ça pour ce travail alors de restitution qui vient de nous faire Ali Legrand, c'est vrai, nous parlons d'un autre sujet que vous avez évoqué ce matin alors à la une de votre journal, c'est le journal Le Diance. Et vous parlez alors de Togo, enfin des enfants de rue, et vous dites qu'il y a une étude alors de la CNDH sur 550 personnes rendues, qui est rendue publique, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça, c'était courant la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il y a dans le cadre de la journée de l'enfant africain, il y a la Commission nationale des droits de l'homme qui a essayé de faire une enquête sur les enfants que nous voyons au niveau des feux rouges, un peu la nuit même dans les environs des marchés, un peu partout, qui dorment dans des coins pas possibles, qui se nourrissent n'importe comment et qui n'ont pas accès le plus souvent à l'école, à l'éducation de qualité, ils ne sont pas intégrés dans des familles. Et donc, l'objectif, selon les organisateurs, c'était de discuter avec les partenaires pour davantage trouver les voies et moyens pour endiguer ce phénomène. Et donc, ça porte sur 550 enfants, comme je l'ai dit, et selon la CNDH, par rapport aux moyens qu'ils disposent aujourd'hui, ils n'ont pas pu quand même faire cela dans tous les coins du pays. Mais la situation quand même est alarmante et ils comptent vraiment le faire le plus souvent, pourquoi pas par an. Et c'est l'occasion aussi, ils ont lancé cet appel à l'endroit des différentes familles, de sorte que chaque enfant qui se trouve dans ce genre de situation, quelle que soit la situation des parents, que les proches, c'est-à-dire lorsque vous appelez Kofi, que vous voyez, quel que soit l'enfant qui est là, dès lors que c'est un enfant sur le territoire togolais, et cherchons à discuter avec cet enfant, ne serait-ce qu'avoir un mot avec lui pour voir un peu si cet enfant accepterait, par exemple, vous suivre un temps soit peu. Vous savez, il y en a qui sont très récalcitrants parce que c'est dans ces conditions qu'ils s'adonnent justement à la drogue. Et donc, c'est un peu les discussions qui ont meublé cette enquête. Et aujourd'hui, tu portes à croire que nos rues, ce n'est pas un secret. Quand vous sortez ici, ne serait-ce qu'au niveau des feux rouges, déjà, vous faites le constat. Quand vous allez encore dans des localités, je vais prendre une localité comme Zangira, quand vous êtes en train d'aller, avant Zangira, il y a la grande retenue d'eau, le bassin de rétention qui se fait à droite. Comment on appelle là où se trouve le quartier Gogoligo là. Il y a une zone là-bas. Quand vous y allez, vous allez constater il y a des enfants de 15 ans, il y a des adolescents de 15 ans, il y en a aussi des enfants de 7 ans. Vous vous demandez comment se fait-il qu'un enfant de 7 ans se retrouve dans des endroits pareils. Et vous savez, c'est des coins que communément nous appelons ghetto. Parce que derrière, c'est une zone inondable. Et vous allez voir un peu de tout. Ils sont là, ils se cachent.
D'accord.
Vous allez voir, il y en a qui fument. Et quand vous quittez là-bas, vous allez dans d'autres zones comme la lagune, à côté de l'université de Lomé, entre Adéhui et la caisse. À une époque récente, c'est carrément une zone. Quand vous passez, nous on quittait pour aller à l'université, vous ne pouvez pas passer seul. Sinon, vous risquez même d'être violenté par moment par des gens qui. Peut-être à qui vous n'avez rien fait, peut-être il a faim, peut-être tu te demandes peut-être s'il peut trouver un 100 francs, vous n'en avez pas, peut-être il va vous blesser. Et nous, si bien que nous, on marchait en groupe, donc je me rappelle de tout ça pour dire que l'appel est lancé, faisons cet effort de chercher, de prendre langue avec tous ces enfants-là pour voir qui on peut convaincre facilement, parce qu'ils ne sont pas aussi facilement convaincus.
Ils ne sont pas faciles
à convaincre.
Alors, Eric, c'est vrai, cette situation, on l'a dit tout de suite, ou Ali le disait tout de suite, que c'est une situation qui devient alarmante par rapport surtout aux enfants de rue. Mais finalement, comment faire pour endiguer même d'ailleurs ce phénomène?
Alors, c'est une question difficile, parce que, vous savez, déjà, nous avons au Togo, quand même un ministère de l'action sociale qui devait en réalité s'occuper de ces enfants. Encore qu'il faut que ce ministère-là ait les moyens de sa politique. D'abord, il faut savoir qui est enfant de rue. Est-ce que c'est seulement les enfants qui sont là à quémander
les feux rouges,
les artères de la capitale? Est-ce que c'est les enfants que vous voyez les soirs, comme Ali venait de le dire, dans les ruelles, auprès des marchés, auprès des boutiques qui s'animent le soir, etc. Est-ce que ce sont que ces enfants-là qui sont les enfants de la rue? Je crois savoir qu'il y a des ONG qui sont dans le pays et qui prennent en charge certains enfants. Mais pourquoi d'autres n'ont pas accès à ces ONG-là? On parlera de questions de moyens. Je voudrais attirer l'attention de nous tous que ces ONG-là, le plus souvent, quand on trouve des enfants de bas âge et qu'on l'annonce, c'est l'État, sinon le ministère, qui appelle ces ONG-là de venir chercher ces enfants. Mais après, est-ce qu'il y a un accompagnement? Non. J'ai eu l'occasion de parcourir 5 orphelinats pendant le mois dernier, je veux dire. Mais ce que j'ai vu là, en réalité, si je ne sais pas, je manque de mots pour traduire l'état dans lequel se trouvent tous ces enfants-là. Parce que ces ONG-là aussi, on disait qu'elles sont accompagnées par des institutions extérieures. Mais il faut voir, vous arrivez dans un orphelinat, vous laissez tout de suite des vivres, ce que j'ai vécu. Deux sacs de maïs, tout de suite on prend ces sacs de maïs-là et puis on va au moulin. Ça veut dire que dans cette journée-là, si vous n'aviez pas apporté ces deux sacs-là, les enfants, peut-être, ils boiront de l'eau et puis la journée est terminée. Voyez-vous, donc, je dis, pour régler ce problème-là, je pense qu'il faut que les autorités s'asseyent avec ces ONG-là, parce que vous ne pouvez pas envoyer ces enfants dans les orphelinats, auprès des ONG et des centres d'accueil et tout ça, sans accompagnement. Donc, il faut trouver une politique nationale de réinsertion de tous ces enfants-là. Mmh. Donc, à mon avis, le problème est beaucoup plus crucial que ce que nous voyons.
Nous voyons, justement.
Le rapport de la CNDH nous édifie sur la vie. Et vous voyez, pour la plupart, ils deviennent des délinquants. Mmh. Et c'est eux qui vous attaquent. Peut-être que vous êtes un donateur, mais c'est ces enfants-là qui viennent encore vous attaquer. C'est un problème très crucial. Je pense que la CNDH a bien fait de mener ces enquêtes-là pour nous édifier tous. D'accord. Maintenant, il faut que tout le monde quand même apporte quelque chose à ces centres d'accueil, à ces ONG. Mmh. Et que l'État aussi fasse son travail.
C'est très important. Alors Sam, c'est vrai que le phénomène s'observe maintenant dans nos rues. Hein. On voit des enfants de la rue qui sont là, des jeunes d'âge minime, bien sûr, qui sont des mineurs, qu'on retrouve dans la rue et qui quémancent. Mais finalement, c'est à qui la responsabilité de prendre ces enfants, ou du moins de faire, d'arrêter même ce phénomène?
D'abord, moi, je vais dire de facto que des enfants qui se retrouvent dans la rue, c'est déjà la démission des parents. Parce que les enfants de bas âge, comme on les voit au niveau des feux tricolores, c'est la démission des parents. Et dans ces catégories d'enfants, vous allez voir, il y a deux sortes. Il y a certains dont les parents sont vraiment démunis, qui n'ont vraiment rien, quasi rien à donner aux enfants pour que les enfants puissent se le mettre sous la dent. Donc, ces enfants se retrouvent dans la rue. Mais il y a d'autres enfants, par contre, qui se soustraient de l'autorité parentale. Mmh. Peut-être que l'éducation, les parents n'ont pas été suffisamment rigoureux ou n'ont pas usé de leur pouvoir de parents. Mmh. Et ces enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils ont échappé au contrôle des parents. Donc, il y a deux catégories de ces enfants-là qu'on retrouve dans la rue. Mais l'un mis dans l'autre, moi, je pense que le gouvernement a une part de responsabilité à canaliser tout ce beau monde-là. Mmh. Eric a parlé des orphelinats, des ONG, tout ça là. Des centres d'accueil. Mmh. Déjà, il y a un ministère de l'Action sociale.
Tout à fait.
Et il y a une agence de solidarité nationale. Mmh. Et cette agence, je crois que c'est une agence qui fait un peu comment on peut l'appeler ça dit que
le social,
dans le social,
dans
la distribution des vivres, c'est une organisation caritative, si on peut le dire ainsi. Donc, sur la base de ça, je pense que l'Agence de solidarité nationale, sur un programme bien établi, peut approvisionner ces centres d'accueil, ces ONG qui sont à la recherche des moyens. Maintenant, il y a d'autres parents même qui, lorsqu'ils se sentent incapables de continuer par élever leurs enfants, peuvent confier leurs enfants à un orphelinat ou à un centre d'accueil. Et il y a un centre que moi j'ai découvert dans la V, dirigé par un certain Roger, ils ont appelé ça AMEPT, qui est un grand centre. Le gars, avec ses moyens de bord, c'est quelqu'un qui a vécu à l'extérieur et qui est revenu, qui a créé un orphelinat et qui accueille tous ses enfants de rue, où il a une école. Il a créé une école, école primaire, CG, lycée, un centre de santé et des centres d'apprentissage. Et à côté, il fait en même temps la ferme, il cultive et il faut l'élevage.
C'est tout un complexe.
Donc c'est un complexe qui permet maintenant à ces enfants qui apprennent sur le lieu, en même temps qu'ils vont à l'école, de manger à leur faim et d'aller à l'école. Et donc, moi, je lance ici un appel à des bonnes volontés parce que le Togo a des gens quand même qui ont mangé, ça reste, qui peuvent au moins donner à ces orphelinats. Parce que quand vous décidez d'aider ces orphelinats-là, vous aidez la société à se débarrasser des braqueurs, des voleurs à main armée, des terroristes. Parce que ce qui se passe dans les rues, c'est le terreau fertile du grand banditisme, si on ne sait pas canaliser ce phénomène. Parce que ces enfants-là, si on n'arrive pas à mettre la main sur eux demain, c'est eux qui vont devenir des braqueurs, c'est eux qui vont retirer les téléphones chez des gens dans les coins de rue, c'est eux qui vont accepter d'aller rejoindre des groupes extrémistes. Donc moi, je pense que aussi bien les parents que le gouvernement, chacun a sa part de responsabilité à jouer pour que ce fléau-là soit loin de nous.
D'accord, merci beaucoup Sam. Nous allons quitter le sujet, nous allons nous intéresser à un autre sujet. Eric, un autre sujet que vous évoquez hein, ce matin, vous parlez alors du domaine alors de la santé et vous parlez alors de la répartition équitable, je lis même d'ailleurs votre titre, répartition équitable alors des professionnels de la santé, le plan de motivation pour l'affectation en zone défavorisée. Et donc, il y a désormais un plan de répartition, ou du moins, c'est un plan de motivation même d'ailleurs pour l'affectation dans les zones défavorisées. C'est bien ça?
C'est bien cela. Alors, d'abord, je vais donner quelques chiffres. On parle de 527 personnes qui constituent le personnel médical et 6015 qui constituent le personnel paramédical. Alors, le phénomène qui se passe dans notre pays, c'est que les gens refusent catégoriquement d'être affectés dans des zones reculées.
C'est parce qu'il y a des conditions quand même
qui ne leur permettent pas de travailler. Nous parlons ici tout le temps du plateau technique.
Tout à fait.
Qui est pratiquement inexistant dans ces centres de santé, dans les zones que nous disons zones défavorisées. Et donc, depuis toujours, il y a certains carrément qui ont été bien formés et qui doivent normalement être déployés sur toute l'étendue du territoire. Mais quand le moment des affectations arrive, qu'est-ce qu'on constate? Des démissions. Les gens démissionnent carrément et ils vont se retrouver, ceux-là qui se retrouvent à l'extérieur du pays. On parle de fuite de cerveau. C'est surtout dans le domaine médical que le phénomène est beaucoup plus probant. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un projet qui a été initié par le ministère de la Santé qui s'appelle SEQCU, c'est-à-dire Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
Sécu.
Alors, ce projet-là permet quand même d'aider ceux qui doivent être déployés dans les zones défavorisées en faisant une aide, en leur octroyant une aide de logement, parce que le plus dur pour eux, c'est que vous êtes affecté, mais vous allez loger où? Donc, ce projet-là prend en charge le logement de ces agents de la santé. Ensuite, il y a des fonds qui sont débloqués pour leur permettre de se réinstaller. Et donc, tout ça, ça permet aux gens de ne plus démissionner, de ne plus déserter quand même le secteur de la santé. Mais il faut quand même dire qu'il y a des conditions. On vous demande, par exemple, d'aller là où on vous a affecté d'abord, on vérifie avant de vous octroyer ces fonds pour le logement, pour la réinsertion, etc. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, avec ce projet-là, l'État essaie quand même de ne plus avoir ces fuites de cerveau, de garder ce personnel soignant sur le territoire national. Vous savez, il y a des USP, c'est-à-dire des unités
de soins
périphériques, qui manquent cruellement de personnel. Et vous voyez, ces gens-là qui sont formés, par exemple, qui sont auxiliaires médicaux, qui désertent, vous les retrouvez par exemple dans une clinique privée et
parce que c'est mieux payé.
On les appelle docteurs.
Voilà, c'est mieux payé. Parce que c'est mieux payé, les conditions aussi sont acceptables.
Acceptables. Mm. Mais parfois, c'est eux-mêmes qui créent leur centre.
Tout à fait.
Et il y a eu un cas qui a été réglé par la DPJ où quelqu'un qui s'est dit docteur chirurgien dentiste qui a extrait une dent à un monsieur, le monsieur s'est retrouvé avec une tête trois fois plus grosse que la mienne. Et vous imaginez, les parents ont dû porter plainte et finalement on a interné le monsieur au CHU Sivanis Olympio pour régler le problème. Vous imaginez cela, ça veut dire que il faut forcément régulariser ce secteur-là. Aujourd'hui, vous avez des cliniques qui, en réalité, ne sont pas dirigées par des médecins traitants. C'est des gens qui ont déserté le secteur, qui ont été formés pour être accompagnateurs ou aides soignants, etc., qui deviennent des propriétaires.
D'accord. Merci beaucoup, Eric. Oui, Allez Legrand. Oui, quand on prend le projet, c'est un projet encouragé. Ça donne même d'ailleurs de la motivation aux praticiens, même d'ailleurs de la santé, d'aller même d'ailleurs à des zones défavorisées et de faire le travail comme cela se doit.
Une très bonne chose de la motivation, comme vous l'avez dit. Et je crois que le gouvernement n'est pas à son premier cas, hein, pas seulement le domaine de la santé. Vous savez, des projets comme ça, c'est par rapport à un souci, c'est pour régler un problème à long terme, hein, à court, à moyen, à long terme, que cela a été fait. Mais il faudrait appeler vraiment l'élément qualité-gestion. C'est-à-dire, c'est la rigueur dans la gestion qui permet de pérenniser de telles choses. J'ai plusieurs exemples. Mais je viendrai sur un essentiellement pour dire que dans un premier temps, quand en tant qu'employeur, vous affectez votre employé, vous pensez affecter, vous voulez affecter votre employé dans une localité donnée, en dehors de son lieu de résidence habituel, il y a les conditions naturellement.
Que ça ne soit pas une affectation punitive, comme on le dit.
Naturellement, ça c'est un cas. Mais généralement, pour affecter la personne, il faut mettre les conditions qu'il doit pouvoir suivre.
Tout à fait.
Les conditions, c'est en amont. Et non en aval. Et même en aval, il ne faudrait pas aussi agir du genre par relation, parce que c'est mon frère, il faut faire ceci. D'abord, quand on prend même la structure du pays, qu'on le veuille ou non, quand vous êtes à Lomé, vous avez plus de chances pour un certain nombre de services. À l'intérieur du pays, ce n'est pas le cas. Quand on vous envoie par exemple à Badou, ou dans un village à Kounyaou, vous n'avez pas les mêmes conditions pour vivre. D'abord l'habitat. Si la personne, l'employé que vous affectez, là, vous devez pouvoir lui donner les moyens pour pouvoir, en termes de logement, bien sûr, lui fournir le logement adéquat, pour qu'il puisse survivre avec sa famille au quotidien, c'est-à-dire au-delà de son salaire, il faut qu'il arrive à s'approvisionner. S'il ne peut pas le faire, compte tenu de la condition là-bas, il va falloir que l'État, en tout cas l'administration qu'il a affectée dans ce milieu, puisse le lui fournir au jour le jour, et semaine en semaine et mois par mois.
D'accord.
Je viens par exemple, je prends un projet par exemple, nous sommes dans le domaine de la santé. Hein, quand vous voulez rentrer par exemple à l'entrée du tribunal de Lomé, l'entrée principale, hein, par le côté barreau, c'est pareil au niveau de la cour d'appel. Ça, c'est de grands projets qui ont été initiés autour de 2012. Les bureaux d'orientation des justiciables. C'était fait avec des partenaires. Et selon les informations que nous avons eues, puisque nous avons publié un article sur ça par le passé, le projet devait faire 5 ans et c'était financé entièrement par les partenaires. Au bout des 5 ans, c'est-à-dire en 2017, après 2017, le gouvernement devait prendre la relève. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Ces bureaux d'orientation, dans un premier temps, c'était de renseigner les justiciables pour pouvoir éviter les démarcheurs au niveau des tribunaux et des cours et tribunaux Togo. Cela n'a pas été fait. Récemment, ce que nous avons appris, vous allez voir certains éléments à ces endroits, c'est carrément pris par le service de l'administration pénitentiaire récemment au niveau de la cour d'appel. Par contre, au niveau du tribunal, vous allez voir un peu quelques personnes habillées en gilet et c'est le projet d'excellence pour la gente féminine ou quelque chose comme ça. Il y a certains éléments qui y sont affectés actuellement. Et leur rôle, effectivement, c'est de faire l'orientation. Ça a commencé il y a à peine un an. pour vous dire que c'est des instituts qui sont restés comme ça pendant des années. Et malgré tout ce qu'on y a mis pour construire et la clim, tout ça, c'est resté comme ça pendant des années. Je vous parle de 2017.
D'accord.
Ça a été renouvelé. Mmh. Maintenant, quand je quitte ce point, quand vous allez, par exemple, dans une localité comme Dacha, il y a de ces petits villages sympas, les unités de soins périphériques, hein, c'est les CMS, les centres de santé, centres médico-social.
Médico-social.
On met l'accent plus sur les volontaires, la MVT. Mmh. Alors, initialement, vous prenez des gens que vous formez sur 5 ans, avec beaucoup de moyens, même si c'est les partenaires qui mettent des moyens, et au bout des 5 ans, vous laissez le jeune partir. Moi, je dis, il y a un problème. Puisque pendant ces 5 ans, celui-là qui a eu la chance d'être formé dans nos universités, et qui ensuite s'est fait engager à travers un projet par le gouvernement, pendant 5 ans, entre 40 et 60 000, et au bout des 5 ans, vous le laissez partir. Après, le projet a connu, la NVT a connu une évolution. On peut te prendre pour 6 mois, pour 2 ans, pour 3 ans.
D'accord.
Et ainsi de suite. Quand ça finit, le contrat finit, on vous laisse. C'est pour dire qu'il y a une question d'objectif,
tout à fait.
Une question de résultat de ce qu'on veut.
D'accord. Et ça, c'est vrai qu'en lisant hein, tout ce que, ou en analysant même d'ailleurs tout ce que ça, Ali vient de dire, on comprend tout simplement que pour ce genre de projet, surtout qui a été initié dans le secteur de la santé, on aurait même d'ailleurs instituer ce projet dans tous les secteurs pratiquement.
Oui, vous voulez qu'on implémente le projet de la santé dans l'éducation, par exemple?
Oui, mais justement, c'est-à-dire cette motivation, le projet de motivation.
Oui, oui. Moi, je pense que ce que les confrères ont dit, ils n'ont pas totalement tort. C'est important d'encourager les gens à aller dans des milieux plus ou moins reculés, parce qu'il y a certains qu'on affecte en milieu d'année, où les enfants ont déjà commencé l'école dans une ville et après on les mute vers une autre ville. C'est un peu compliqué. Donc quand il y a, je crois que ça donne beaucoup plus d'envie ou d'engouement à ces gens-là de se déplacer. Mais en même temps, n'oubliez pas que lorsqu'on vous engage dans l'administration publique, il y a une partie où on dit que vous êtes appelé à servir partout où besoin sera. Et donc sur la base de ce partout où besoin sera, ça veut dire que vous pouvez à tout moment vous attendre à aller. C'est comme un soldat qu'on appelle à une mission à un endroit donné. Surtout les gens de la santé, moi je les considère comme des gens qui font du sacerdoce. Ils ont un salaire, ils ont des motivations, mais ils ont été formés pour sauver des vies. Alors, sur cette base, quand vous affectez dans une zone, que ce ne soit pas à la base une affectation punitive, comme tu es en train de le dire. C'est-à-dire que si c'est des choses qu'on vous affecte dans une zone, et il faut aussi qu'on institue en même temps une règle pour dire que lorsqu'on vous affecte dans une localité, il y a les avantages, mais il y a un délai qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que dans la même administration, qu'on ait des gens qu'on affecte régulièrement et qu'il y a des autres qui sont formés pour faire rien que la capitale. Quand c'est comme ça, il y a une injustice qui s'instaure. Et donc, il faut au moins une loi pour dire que c'est comme au niveau du ministère des Affaires étrangères, les diplomates qui sont à l'extérieur, ils ont un délai. Quand vous faites ce délai, on vous rappelle, on envoie quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça doit être une rotation.
Si
c'est observé comme ça, je ne pense pas que quelqu'un, un agent de la santé qu'on affecte dans une localité reculée peut refuser d'y aller parce qu'il n'a pas forcément les avantages. Maintenant, au niveau de tous les autres secteurs, surtout la santé, non, l'éducation plutôt, parce que l'éducation, c'est quand on est dans l'éducation qu'on retrouve des endroits où il faut travailler dans des tréfonds du pays. Par exemple, quand vous êtes un agent du Trésor ou du CASEF, c'est rare de vous retrouver dans Kounyaou, par exemple.
Non.
Voilà, donc, c'est-à-dire qu'il y a des professions pour lesquelles il faut une motivation. Mais en même temps, au niveau des enseignants, il y a déjà une motivation qui ne dit pas son nom. Au niveau des enseignants, quand vous avez une licence, vous n'êtes pas classé en catégorie B.
Non,
vous êtes en catégorie A2.
Voilà.
Donc, il y a déjà une motivation. L'État a déjà réfléchi sur tous ces aspects-là. Et moi, je pense que c'est bon d'avoir des motivations, mais en même temps, le législateur ou l'État n'est pas insensible à ce que les enseignants ou les personnels de la santé peuvent endurer lorsqu'ils sont affectés dans des localités.
C'est que moi, je voudrais dire que, il y a une question de poigne, de rigueur dans la gestion, en fait. Il y a une question de personne. Il y a pris, par exemple, l'exemple du ministère des Affaires étrangères. Quand vous prenez le ministère des Affaires étrangères, avant le professeur Robert Dussé, il y avait il y avait de ces messieurs qui ont fait plus de 15 ans.
Un réseau.
Il y a un grand réseau. Et les gens se sont installés, par exemple, en Allemagne, à New York, et ils ont refusé de revenir, après 20 ans même, de fonction.
Oh, ils devaient revenir.
Vous dites que vous pouvez devenir diplomate, mais vous demeurez ici, sur place, au ministère ici, et vous êtes attaché d'administration. Vous restez là-bas pendant. Si vous ne savez pas faire, vous allez prendre votre retraite comme ça, pendant que quelqu'un là, plus de 20 ans en poste, il a amené toute sa famille, on était là. Donc, c'est pour dire que quand le professeur Robert Dussé est venu, quand vous fonctionnez comme ça, vous vous faites des ennemis énormément. Et ces ennemis, je crois que le ministère en a plein. C'est pareil, quand vous prenez encore l'exemple de quelqu'un, je prends l'exemple du professeur Kokoroko. Ça m'a parlé assez de l'enseignement. C'est un sacerdoce. Mais vous savez, on ne peut pas manger des œufs sans casser. On ne peut pas,
faire de l'omelette
sans casser les œufs. Pour dire que, quelque part, quand vous commencez comme ça, il faut que ça commence un jour. Il y a plein d'ennemis qui se dressent contre vous. Mais au même moment, le système doit pouvoir comprendre qu'on doit évoluer. Et donc, il y a une question de personne dans tout ça. C'est pour ça qu'il dit qu'à la base, il ne faudrait pas que ce soit des affectations punitives. Il faut que les choses soient faites dans les règles de l'art.
C'est très important.
Si tel est le cas, alors, je crois que vous allez accepter. Si on vous affecte, par exemple, au beau milieu de l'année, et que vous êtes obligé d'aller dans le délai qui vous est imparti, en laissant votre famille ici, mais je crois qu'à la suite de ça, le temps que vous allez faire là-bas, peut-être c'est 2 ans, il va falloir qu'après, il y ait une récompense. Et dans l'armée, d'après nos mes renseignements, ça s'observe. Quand vous êtes dans une zone dangereuse, arrivé à un moment, quand vous serez affecté, on va vous mettre aussi là où vous allez prendre un peu de lait et de miel.
D'accord, c'est important. Alors, notre train est déjà avancé, Eric.
Je veux juste ajouter ceci par rapport à ce plan de motivation. C'est qu'aujourd'hui, il y a un document qui peut être consulté par tout agent de la santé. Et c'est un manuel qui détermine effectivement les détails d'opérationnalisation des affectations et surtout le régime d'avantage à utiliser. Cela permet une certaine transparence et donc aujourd'hui, nous avons sous la main un document de plan de mobilisation.
D'accord. Merci beaucoup, Eric. Merci, chers confrères. Notre temps est déjà avancé. Nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs, puisqu'ils sont nombreux et ils s'impatientent, même d'ailleurs, à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous, bien sûr. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Après, nous leur donnerons la parole.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et vous comprenez que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi. Réagissez sur des sujets débattus, bien sûr, au Club de la Presse d'aujourd'hui. 22 21 33 114 91 36 63 75 91 36 63 75. Ce sont là les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir, participer à cette émission. Et donc, nous insérons notre premier auditeur. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, bien, et vous?
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
C'est Patrick.
Oui, Patrick.
Je salue tout le monde.
D'accord.
Juste ce matin, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Seulement, saluer mon commandant, mon patron, ça, c'est là où il est toujours là.
Oui, il vous écoute.
Alors, je lui dis un grand bonjour. Ça fait un bail. Et que je lui dis, David, bon vent à lui, que les jeunes qui veulent, ou bien qui ambitionnent, embrasser ce métier de journaliste, qui suivent l'exemple de ce monsieur, vraiment, j'apprécie ce qu'il fait comme vous, c'est juste à cela que j'ai appelé.
D'accord, merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick, pour cette intervention. 22 21 33 114 91. 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi, bien sûr, 22 21 33 114. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Nous sommes au Togo, vous le savez, mais vous me demandez toujours. Vous dites toujours que ça va. Chez moi, ça ne va pas.
D'accord. Allez-y.
Je ne vais pas suivi, je n'étais pas là. Quand je suis venu, je suis à cheval entre Taxi FM et vous. Mais j'entends Eric qui dit que on nomme quoi, c'est pas sûr, c'est tout, c'est là, j'ai entendu quelque chose comme ça. Et ça, au moins, je peux intervenir. Donc, moi, je veux dire à Eric que je ne sais pas quand, quand vous faites l'émission et nous, on vient, on écrit après sur YouTube, est-ce qu'il lit les choses ou pas. Cette affaire qu'il fait, ça n'arrange pas les Togolais.
Non, Basile.
Oui.
Réagissez sur un sujet. Je voudrais vous écouter réagir sur un sujet.
Allô?
Oui, oui, Basile, je voudrais vous écouter réagir sur un sujet débattu ici.
Oui, oui, c'est le sujet-là. On a nommé quelqu'un dit que c'est récompense, l'autre dit ceci, et puis lui, il est intervenu, il a dit ceci ou cela, quoi.
Non, je pense quand même que vous n'avez pas, en quelque sorte, l'élément nécessaire pour en juger. Parce que nous parlons plutôt de la médecine, enfin, du secteur de la santé, et je pense quand même que Eric a fait son développement sur ce qui concerne le développement de la santé. Vous l'avez bien dit, vous ne nous avez pas suivis. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, papa Sordiné.
Bonjour,
oui, comment vous allez?
Ça va,
oui, papa Sordiné, je vous écoute, allez-y.
Moi, c'est avec plaisir que j'ai écouté la voix de monsieur notre chef Gaou, notre grand-père. Je lui souhaite une bonne arrivée quand même. Bonne journée.
Allez, bonne journée à vous aussi. 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Nous avons parlé des enfants de la rue, de ce phénomène qui devient de plus en plus criard. Et nous avons parlé aussi de ce projet de motivation, surtout des affectations en zone défavorisée. Allô? Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez? Oui, c'est Richard.
Richard depuis Copenhague.
Depuis Copenhague. Allez-y, mon cher ami Richard.
Je vais m'en vouloir si je ne dis pas un jour à ça, c'est pas vous. Et lui dire, comment je peux dire qu'il peut venir en Allemagne, mais pas, on va me rendre visite, mais demander de me rendre visite ici au Danemark. On pourrait passer un week-end ensemble. Hein? Non, et puis, pour lui dire que nous ne manquons faire passer matinal qui nous annonce tous les jours sur la radio. Donc, c'était un moment de sollicitation qui nous manquerait beaucoup. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Richard. Depuis Copenhague, 22-21-33-114. Allô? Bonjour, madame Essie.
Voilà. Vous faites un travail que vous aimez tous, vous les journalistes, d'ailleurs tout le monde doit le mettre ça en avant. Vous aimez votre travail. Et puis, voilà, vous avez parlé des enfants.
Oui, madame Essie.
Oui.
Oui, veillez aussi un peu la voix.
D'accord, vous avez parlé des enfants de rue.
Tout à fait.
Qui pullulent là de plus en plus. Oui, mais c'est la non-alternance, c'est le qui fait qu'on ne partage pas équitablement les richesses du pays. Les parents sont appauvris, les enfants se servent, ils sont dans les rues à demander ça. Ça n'existe pas en France, où les gens respectent la constitution de leur pays. Et si vous avez parlé, oui, dès qu'il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'éducation, pas de santé, il n'y a rien qui va. C'est comme ça, quoi. Voilà, on est dans une république, il faut que les gens arrêtent ça, il faut qu'on alterne pour avancer, pour que le pays soit développé ainsi. Merci.
Merci beaucoup, madame Essie, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, non?
Oui, s'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste à côté de vous.
Ah, d'accord. C'est bon?
Oui, voilà, c'est bon. Votre nom, c'est?
C'est Maurice.
Maurice, vous nous appelez de quel quartier?
Je m'appelle Bataillacomé.
Pardon?
Je m'appelle Bataillacomé.
Afanyakomé. Oui, allez-y.
Je veux intervenir au sujet de l'enfant de Rico. La chose qui me c'est la dimanche, quoi. Si tu vois les enfants, au moins 90%, les parents ne sont plus ensemble. C'est ça qui amène tout ça là. Donc il faut que les hommes de Dieu
intervenir beaucoup sur des divorces. Là. Il y a tous des divorces, c'est pour ça. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup Maurice pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-315. Allô?
Je reviens.
Oui, Basile.
Oui, je persiste. Je veux dire que vous avez dit qu'il n'y a pas la santé, il n'y a pas tout ça là. C'est ce que nous on dénonce depuis bien lurette. C'est ce que moi je veux vous dire. Mais je vous j'avoue que quand je suis venu sur votre chaîne, j'ai entendu que ceci. Mais vous m'avez dit que ce n'est pas ça. Il n'y a pas de problème. Sauf que quand il y a de telles choses, que quand vous, journalistes, vous venez, vous allez aussi plaider dans le sens de la population, mais il y a d'autres qui vont toujours dans le sens du gouvernement. Ce gouvernement, lui, si vous, même si vous ne faites pas ça, lui peut brûler les yeux, lui peut faire tout. Il n'y a personne qui va parler. Pourquoi vous, journalistes, qui devez protéger la veuve et l'orphelin, c'est vous qui allez venir encore. Dites que vous êtes en train de les soutenir. C'est ça que moi je ne comprends pas. C'est ce que moi je ne comprends pas.
Mais Basile.
C'est pas là, Eric, bien sûr.
Basile. Basile.
Oui.
Mais personne n'a soutenu alors. Quelqu'un même d'ailleurs dans cette émission.
Tout ce qu'il le dit, c'est tout le bien que lui pense.
Oui, mais Basile, vous avez dit que vous ne nous avez pas suivis, non? Vous avez dit que vous ne nous avez pas suivis.
Ça commence à gâter la population.
D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, nous pouvons passer à notre auditeur, parce que, allez, si vous n'avez pas d'éléments nécessaires alors pour intervenir, ce serait quand même très, 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 très important quand même hein, que vous nous suivez et que vous réagissez alors sur des sujets. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour le plateau.
C'est Armand.
Armand, oui.
Allez-y, Armand.
D'abord, vous remercier parce que vous avez des débats très constructifs. Aussi pour dire que concernant les enfants de la rue, il va falloir que nous puissions revenir un peu aux valeurs qui sont les nôtres. C'est-à-dire, en Afrique, l'enfant, ce n'est pas pour un tel. L'enfant appartient à la communauté. Donc, malveillant d'entendre que cet enfant a quitté tel pour rester dans la rue. Même si l'enfant ne s'entend pas avec l'un de ses parents, l'enfant a une grande famille. C'est-à-dire qu'il peut aller rester chez une tante, chez un oncle, et c'est-à-dire pendant que les gens puissent trouver des voies et des moyens pour résoudre entre dans la famille. Donc, vraiment, il va falloir que les uns les autres, les chefs traditionnels, les chefs des us et coutumes puissent revoir un peu ce côté-là.
Merci beaucoup, Armand, pour votre intervention. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom, c'est...
C'est Lassi.
Pardon?
C'est Lassi.
J'ai du mal à écouter c'est le Lassi. Nom, mais allez-y.
C'est Lassi.
Oui, allez-y.
Ok, bon. Je voulais savoir en quelle année
Décidément, nous avons vraiment du mal à écouter notre ami. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, votre nom c'est...
Allô?
Oui, allô, je vous écoute. Votre nom c'est...
C'est Mawena.
Mawena. Vous nous appelez de quel quartier?
Mawena, d'Aïdogomé.
Allez-y.
Aïdogomé.
Oui, allez-y.
Je salue le plateau. Bon... Nous, on vous écoute jalousement et religieusement dans vos analyses. Mais tout ce que vous racontez, c'est la politique de notre pays qui n'est pas vraiment stable. C'est ça qu'on déplore, quoi. Mais vos analyses envers les politiciens ou bien envers nos gouvernants ne nous satisfait pas. Mais si on veut parler, bon, vous dites que bon, vous n'avez pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, c'est vrai. Mais ça fait que c'est réciproque. Nous, les populations aussi, n'ont pas de leçons à recevoir des crises avant de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Parce que nous vivons la chose tous les jours. Donc vos analyses, des fois, ça nous fait penser à vous comme si on ne parle de notre pays, quoi. Ce n'est pas notre pays, le Togo.
Oui, mais monsieur Mawena.
Si la politique n'est pas normale, bien n'est pas, c'est-à-dire normale, c'est difficile.
Oui, monsieur Mawena. Allô?
Oui.
Vous m'écoutez?
Oui, je vous écoute.
Voilà,
nous
avons parlé des sujets. Nous avons parlé des sujets. Moi, j'aurais voulu vraiment que vous interveniez sur ces sujets. Mmh. Et vous faites aussi vos analyses alors sur ces sujets.
Oui, tout ce que vous avez raconté là, c'est bon. Monsieur Sass aussi a raconté, bon, c'est le séjour qu'il a fait. Tout ça là, c'est beau. Mais nos pays de Togo là, ça ne nous fait pas de faire tout ça là. Si on voyage, on voit ce qui se passe dans les autres pays, c'est beau. Mais au Togo, la politique a tout sa fille. Mais si on veut parler, vous les journalistes, certains journalistes, vous ne voulez pas.
Mais là,
vous ne voulez pas, franchement.
Oui, on vous laisse le temps.
Quand on a dit en vain, nos gouvernants, vraiment, il faut revoir ça.
On vous laisse le temps, dites ce que vous avez à dire, monsieur Mawena.
Mais, oui, sur ce plateau, le gouverneur, c'est-à-dire les journalistes se permettent de dire que c'est l'unique qui fait la politique, la bonne politique dans ce pays.
Mais attends, nous n'avons rien dit de cela, monsieur Mawena. Je pense que vous ne nous avez pas écouté. Parce que déjà, dans cette émission, nous n'avons même pas parlé politique. Merci beaucoup, monsieur Mawena. Je pense quand même qu'il est le dernier auditeur, hein, ou du moins, si nous allons recevoir, tout le monde nous donne l'occasion alors de recevoir encore un dernier auditeur. Okay. Allô? Oui, bonjour, comment vous allez?
Ça va bien, c'est Patrick qui revient.
Ok, Patrick, allez-y.
Bon, dans un instant, avant que je ne dise ce que j'ai à dire là, pardon, je vais dire aux auditeurs, pardon, cette émission, c'est un rendez-vous pour nous donner du recevoir. C'est-à-dire, vous nous informez, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire autre chose que vous pensez, c'est votre point de vue, que les gens comprennent. Je ne pense pas que les gens pensent que vous allez vous mettre à leur place pour dire que voilà, ça ne va pas, tout le monde le sait. Mais vous avez quelle force, vous les journalistes. Que les gens comprennent là, que c'est une bonne émission que nous comprenons, que chacun prise quelque chose dedans pour améliorer sa vie. Maintenant, pour revenir sur le sujet du jour.
Merci beaucoup, Patrick.
Oui, le problème des enfants là, mes amis, moi je pose ce problème à deux niveaux. Le premier, les étrangers, parce que les enfants de rue, il y a les étrangers et les autochtones, nos frères et nos soeurs. Maintenant, pour les étrangers, comment est-ce que ces étrangers-là atterrissent à Lomé? Comment est-ce que ces étrangers-là passent par nos projets terrestres et arrivent à Lomé et ça pose des problèmes? Est-ce qu'il y a un contrôle douanier? Est-ce qu'on voit les pièces d'identité de ces personnes-là? Et je peux te voir pour faire quoi? Ils sont qualifiés, c'est-à-dire quelle est leur profession? Tout ça là, mais il ne faut pas venir parce qu'il faut venir. Le blanc, vite compris, c'est pourquoi pour aller chez eux, ils ont retiré ce qu'on appelle le passeport. On va voir ce que tu es venu faire. C'est vrai, nous sommes hospitaliers, nous sommes en Afrique. On vit comme tu as dit au village, t'as dit, on est la convivialité là, tout ça doit demeurer, mais alors nous parlons, le monde est venu. Ces étrangers qui viennent, qui traversent nos frontières là, ils viennent chercher quoi? Ils sont qualifiés, manuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Maintenant pour les autochtones, je pense que c'est l'irresponsabilité des parents, hein. L'irresponsabilité, je ne sais pas, le pape, le jeune qui, je suis désolé, elle dit qu'ils ne sont pas prêts à accoucher, mais accidentellement ça arrive, et ne savent plus à quel point ils sont voués de donner les enfants comme ça, et c'est ces enfants que nous retrouvons dans la rue, c'est l'irresponsabilité des parents. Sinon, vous et moi, quand vous êtes prêts à mettre un enfant au monde, et que vous l'avez fait, vous êtes habilité, même quelque chose que vous faites pour vous, que ne vous rapporte rien, vous êtes habilité à prendre soin de ses enfants, c'est ça.
D'accord, merci beaucoup Patrick pour votre intervention. Je pense que votre intervention met fin à la réaction des auditeurs hein, pour le compte alors de cette émission de ce mardi. Chers confrères, nous revenons en plateau hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Ali Le Grand, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer hein, sur des sujets ici évoqués au Club de la Presse, bien sûr. Et quelle est votre réaction?
Non, aujourd'hui, je dirais que je suis déçu par rapport aux concitoyens, aux interventions des concitoyens, excepté le dernier intervenant qui a quand même ajouté quelque chose. Oui, parce que c'est... nous sommes des humains et nous avons notre manière forcément de voir les choses. Nous ne sommes pas appelés à dire ce que quelqu'un qui est dans sa chambre, dans son boulot actuellement, doit entendre en termes d'analyse. Maintenant, si vous appelez, donnez aussi votre position par rapport au sujet. C'est comme si c'est ce que vous trouvez, c'est ce que vous proposez. Là, ça nous permet aussi de voir nos erreurs que de rester à vouloir critiquer sans avoir un sujet initial. Et secondo, et enfin, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Togo, c'est à nous tous. Et encourageons le peu qui est fait. On a parlé d'un projet aujourd'hui qui puisse quand même stimuler, donner un peu de l'émule, en tout cas encourager les gens, quand notamment le personnel de la santé, quand on affecte quelqu'un dans une localité donnée, que la personne, avec les moyens, le peu qu'on puisse lui donner, que ce projet, ce nouveau projet qui est en gestation, du moins ce qui est déjà lancé, puisse être bien géré. Qu'on puisse avoir un bon colosse, quelqu'un de poigne qui puisse bien gérer ce projet, parce que très souvent, on a de bonnes choses, mais malheureusement, peut-être ça a fonctionné sur 2 ans, et après, c'est du n'importe quoi. Parce que c'est du favoritisme. Si on va vous affecter, c'est affectation punitive. Et finalement, vous n'aurez même pas les avantages parce que vous n'êtes pas peut-être d'un bord politique comme UNIR. Donc, c'est un peu ça, de ça nous parlons ici. Et que nous avons besoin donc des suggestions, des propositions pour que le bien commun
soit préservé. Amélioré. Merci beaucoup, Ali Le Grand. Eric Johnson.
Alors, je voudrais d'abord dire à M. Basile qu'il arrête de fonctionner je ne sais pas, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école. Excusez-moi.
Non, on ne va pas aller comme
ça. Non, parce que vous n'avez pas suivi l'émission. Vous prenez juste deux mots d'une personne pour l'attaquer. Ça veut dire que vous avez déjà des préjugés sur cette personne. Et ça, ce n'est pas bien pour cette émission. Monsieur Patrick a bien dit, cette émission, c'est une émission du donner et du recevoir. Nous donnons des informations, nous les analysons selon nos compréhensions, et lorsqu'on vous donne le micro, c'est pour que vous aussi, vous puissiez apporter votre contribution et non s'attaquer aux gens. Je crois que, personnellement, il m'attaque tout le temps. Il dit des conneries, excusez-moi de le dire comme ça, c'est des conneries, c'est des gamineries, des choses qu'ils n'ont même pas droit de citer. Parce que là, il est allé trop loin. Parce que tu n'as pas suivi l'émission, tu dis quoi là, il dit quoi là, c'est quoi? C'est un sujet de débat. Je crois qu'il doit quand même se ressaisir, ce monsieur Basile. Parce que autrement dit, s'il ne veut pas nous voir à l'émission, nous parlons, les gens nous voient à travers les réseaux sociaux, mais lui se cache derrière son téléphone pour nous invectiver. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il arrête cela. Je crois que les sujets dont on a débattu aujourd'hui, c'est des sujets carrément sociaux. Et je pense que ça devait intéresser plutôt les gens. Et non, personne n'a parlé de politique. Monsieur Mahonat vient dire qui a parlé UNIR aujourd'hui. Vous voyez, c'est des comportements qui ne sont pas dignes des citoyens. Je vais vous dire à Monsieur Basile. Monsieur Basile dit que ça ne va pas chez lui. Mais il faut qu'il comprenne que ce message-là, on l'a dit depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, il faut apprendre aux gens comment transformer votre vie. Quels sont les projets qui sont là, qui puissent permettre à chaque Togolais de s'en sortir? Je crois que c'est le moment ou jamais de le faire. D'accord. Et non de venir dire « ça ne va pas ». Si ça ne va pas chez toi, tu n'es pas les 8 millions de Togolais.
D'accord,
tu
merci
es
beaucoup,
une
Eric.
Entité parmi ces 8 millions.
Merci beaucoup, voilà. Eric, je comprends votre émotion. Oui, Sam Djabor.
Non, je pense que mes confrères ont déjà placé un mot au regard de tout ce que les intervenants ont eu à dire. Et moi, ce que moi je vais demander aux uns aux autres, c'est de la patience. Parce que nous sommes des journalistes. Nous apportons l'information et nous faisons nos analyses. Mais nous ne pensons pas détenir le monopole du savoir. Les Togolais sont suffisamment intelligents. Donc quand nous faisons nos analyses, c'est pourquoi vous leur donnez l'occasion d'intervenir d'apporter leurs analyses ou la contradiction de ce que nous avons dit. Tout à fait. Mais quand les auditeurs versent dans les injures, dans les insultes, ils invectivent les gens, c'est en cela que moi je les appelle à beaucoup plus de retenue. Nous sommes appelés à construire une nation solide et c'est dans la diversité de nos opinions et dans la compréhension de ce que chacun dira que peut jaillir la vérité ou la lumière pour notre pays.
D'accord.
Maintenant, peut-être une note en fin d'émission, parce que les autres n'ont pas donné. Moi, je voudrais donner la note de 9 sur 10 à la communauté Tchamba, qui a célébré le week-end dernier la fête traditionnelle Ndobiti, qui a vénéré, qui a fédéré toutes les énergies. Ils ont eu le temps de penser au développement de leur localité. D'accord. C'est une bonne chose.
Merci beaucoup.
Et j'encourage aussi toutes les autres communautés à faire comme ça.
Merci beaucoup. Je ne pense pas que Ali Le Grand et l'autre Eric aient alors de notes de fin d'émission. Ali Le Grand, merci à vous.
J'ai une note à donner, par exemple, à la Banque mondiale qui vient de faire une situation générale sur...
Oui, la note d'abord.
9 sur 10.
D'accord.
Sur la situation énergétique de nos pays.
D'accord, ok.
Et
merci beaucoup.
C'est une enquête qu'il faut véritablement
D'accord. lire. D'accord. Hein. Eric, merci beaucoup. Ali Le Grand, merci. Sam Diabo, merci d'être passé alors dans cette émission. Votre analyse et vos contributions enrichissent bien sûr alors cette émission. Merci d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi. Merci à vous. Thomas était à TV à assurer la mise en onde. Jérôme Akoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Portez-vous bien. Au revoir.